France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Je vois avec plaisir que ma réputation culinaire se répand et promet d'effacer bientôt ma réputation littéraire. Dieu soit loué. Je pourrais donc léguer à mes enfants, au lieu de livres dont ils n'hériteraient que pour 15 ou 20 ans, des casseroles ou des marmites dont ils hériteront pour l'éternité et qu'ils pourront léguer à leurs descendants comme je les leur aurais légué à eux. Or, comme il est probable qu'un jour ou l'autre, je quitterai la plume pour la cuillère à peau, je ne suis point fâché de jeter d'avance les fondations du vrai monument de ma renommée. Causerie littéraire du journal de Monte Cristo, Alexandre Dumas.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau d'On va déguster. Et si c'était l'écrivain le plus gastronome de la littérature française? Sa passion culinaire a nourri sa vie et son œuvre, une vie rocambolesque et une œuvre titanesque. Je parle évidemment d'Alexandre Dumas, ce monstre sacré de notre littérature, l'un de nos écrivains les plus lus dans le monde, également l'un des plus adaptés au cinéma. Et c'était un ogre qui croquait la vie par tous les bouts et tous les goûts. On s'invite à la table d'Alexandre Dumas avec notre spécialiste de la littérature dans cette émission, Stéphane Solier. Bonjour.
Bonjour.
Professeur agrégé de lettres classiques, vous connaissez intimement la vie et l'œuvre de cet écrivain dans ses romans, ses mémoires, ses articles, son grand dictionnaire de cuisine, faut pas l'oublier. Alors on va goûter aussi sa plume savoureuse avec le comédien Emmanuel Gory qui va interpréter spécialement pour nous quelques-uns de ses écrits. Ça vous va?
Ça me va très bien.
Le choix était difficile à faire. Tant les écrits gastronomiques d'Alexandre Dumas sont pléthoriques en effet. Avec nous également, jusqu'à midi, notre spécialiste de la cucina italiana, Alessandra Pierini, et notre chroniqueur vin, Antoine Gerbel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alessandra au menu.
Moi, ce sera un savoureux scandale franco-italien entre deux célébrités du 19e.
Et l'une des célébrités est évidemment Dumas. On va voir de quoi il en retourne tout à l'heure. Antoine.
Alors, descendons en cave pour découvrir ce qu'Alexandre Dumas nommait la partie intellectuelle du repas.
Passionnant. On vous retrouve tout à l'heure, cher Antoine. D'ailleurs, nous inscrivons cette émission dans le cadre du festival des mets et des mots qui se déroule ce week-end à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, pas très loin de Paris. C'est essentiel, la ville de naissance d'Alexandre Dumas. Il y aura des conférences, des spectacles, des démos culinaires. Vous en serez d'ailleurs, Stéphane et Alessandra, et il y a un rapport avec Alexandre Dumas.
Oui, nous y serons pour mettre en voix en fait notre auteur fétiche à tous les deux, Pellegrino Artusi, parce qu'en fait, il est postérieur à Dumas, mais il a été inspiré par Dumas, et on met en voix un peu des extraits qui parlent de ses démêlés avec la langue et la cuisine française et de l'influence de Dumas sur ses écrits.
Dialogue franco-italien, on vous retrouve tous les deux. C'est à quelle heure dimanche, à Villers-Cotterêts?
À 16h, salle chaîne.
Tout à l'heure, pour ceux que ça intéresse, pour retrouver tous nos contenus et notamment une sélection de textes signés Dumas, mais aussi pour nos infos pratiques, nos recettes, nos adresses et tout le podcast, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Commençons, si vous le voulez bien, cette émission par un petit coup de cœur. Vous avez un carré de couleur sombre, de couleur noire, dans vos assiettes sous vos micros. C'est à déguster à l'aveugle, évidemment. Allez, vous avez reconnu la matière quand même?
Oui, du chocolat.
Bravo, chocolat, cacao.
Là, on croque.
Là, vous êtes bien, mais attention. Chacun de ces carrés chocolatés a un petit parfum en particulier. Mmh. Commençons avec Antoine.
Je mâche pour l'instant. Mmh.
Qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors en saveur, j'avoue que je sèche un peu. En texture, par contre, c'est très particulier.
Oui.
C'est presque un grain de praline,
oui,
mais sans justement la saveur de la praline.
Mm-hmm.
C'est salé.
Ah, et ben voilà.
Oui, oui, maintenant c'est salé. Vous savez, comme le vin, quand vous l'avez dégusté, que ça revient en rétro-olfaction, c'est très iodé.
Bravo. Mais
qu'est-ce que ça peut être? Une plante mais...
Non, ne cherchez pas si loin.
C'est du sel, tout simplement.
Fleur de sel, absolument.
Ah, c'est bon.
C'est, vous aimez?
Ah oui.
Stéphane Solier.
Il y a une légère présence un peu herbacée, mais je n'arrive pas à... Ah, je sèche, j'avoue.
Il était question d'une fine trame citronnée, du citron.
Oh,
allez, Sandra.
Déjà, c'est délicieux. Je l'ai déjà tout mangé. Moi, c'est fleuri.
Oui, bravo.
Persistant, ça sent la Provence.
Bravo.
Lavande.
Mais elle est redoutable.
Strike, bravo.
Alors, redoutable.
C'est parce que c'est quand même subtil. Il y a la note florale herbacée de la lavande, pas le côté savonneux de la fleur du tout. Un petit chocolat.
C'est finement joué, d'autant que vous avez quelque chose de très particulier. Alors, je vais peut-être vous mettre sur la voie d'un artisan que vous connaissez bien, chère Alessandra. Mmh. Il s'agit là de chocolat, en tout cas le vôtre, affiné.
C'est un chocolat italien ? C'est un chocolat sicilien de Modica.
Bravo.
Ah, c'est Simone Sabaini. Ah, c'est là. Le chocolat Sabadi.
On peut rien
c'est
lui cacher.
Non, la finale.
Je vous ai fait déguster un chocolat que vous connaissez sur le bout des doigts.
Ah là là. Mais non, j'aurais pas deviné comme ça. On sentait pas du tout l'huile essentielle de lavande que je connais très bien. Enfin, utilisée pour autre chose. Simone. Il a créé la première cave d'affinage du chocolat à Modica, au pied de la cathédrale de Saint George, dans le centre de Modica, où il a sa boutique depuis 2011. Et donc, il est toujours le meilleur chocolat de Modica depuis 13 ans. Et sa cave d'affinage, il met son chocolat directement en contact avec donc de la matière naturelle, des barriques, des fruits, des fleurs, des résines, des tabacs. Et donc le chocolat, comme il y a naturellement donc du beurre de cacao,
de la matière grasse.
Et c'est la matière grasse qui capture et qui garde très longtemps donc les saveurs.
Et il y a à chaque fois pour chaque matière un temps d'affinage, etc.
Différent,
c'est en fait c'est cette captation d'arômes se fait par imprégnation.
Imprégnation.
Et ça c'est une innovation mondiale.
Ah oui, mondiale.
Et ça donne ce résultat d'une très grande délicatesse.
Il y a pas l'ingrédient dedans. Il y a juste l'arôme de l'ingrédient qui reste imprégné dans la matière grasse du chocolat.
Et êtes-vous au courant de l'actualité de ce poète et de cet orfèvre du chocolat, Simone Sabaini? Il vient d'ouvrir à Paris.
Enfin, depuis mi-décembre, 30 rue Racine dans le 6e.
Oui,
donc sa boutique,
elle connaît carrément la reste par cœur.
On peut trouver. Ah oui, non, mais j'adore. Hein, c'est un artisan que je respecte pour son travail.
Dans le monde du cacao, oui. C'est vraiment un très, très grand du chocolat.
On avait d'ailleurs visité son atelier.
Absolument.
Il y a quelques années, exceptionnellement.
C'est grâce à vous que on l'a découvert. Stéphane en était d'ailleurs. C'était un petit reportage que nous avions fait en Sicile. Ouais, Stéphane Solier, en parlant du chocolat, est-ce que le chocolat est arrivé jusqu'au palais d'Alexandre Dumas?
Ah mais oui, bien sûr, rien ne lui échappait. Alors dans le grand dictionnaire de cuisine, qui est un peu notre bible, il y a deux articles consacrés au chocolat, le cacao et le chocolat. Et ce qui est intéressant quand on lit ces articles, c'est qu'on voit qu'il a une expertise déjà en chocolat. Il recommande le fait de mélanger à part égale plusieurs chocolats, trois chocolats notamment des colonies néerlandaises de l'Amérique du Sud. Cela lui donne la dose d'onctueux et d'oléagineux qu'il doit avoir. On voit tout de suite qu'il a pris le goût au chocolat et qu'il en maîtrise les aspects essentiels.
Incroyable cet Alexandre Dumas, d'une folle curiosité culinaire et gastronomique. Par ailleurs, est-ce qu'il a eu la chance de voyager en Sicile, Alexandre Dumas ?
Il est allé deux fois en Sicile avec des longs séjours. Le premier, il avait 32 ans et il a voyagé, il a traversé la Sicile à pied, en bateau, à dos de mulet, et il a adoré la richesse de ce pays. Et plus tard, il a partagé l'expédition des Mille avec Garibaldi pour la conquête du royaume des deux Siciles et l'unification de l'Italie.
Parfait. On évoquera avec vous, Alessandra, les liens parfois ambivalents entre Alessandre Dumas et la botte. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission avec David Diboué-Black, Fabrice Rivaud et Tiana Salès pour la préparation. Le portrait gourmand d'Alexandre Dumas, c'est juste après Walking Alone de Delgrès. Alors tiens, c'est intéressant parce que Delgrès, c'était un bluesman, un rocker originaire des Antilles, façon de rappeler les origines créoles, même haïtiennes, hein, Alexandre
Haïtienne,
Dumas.
Oui. Saint-Domingue à l'époque, hein, sa grand-mère et son grand-père étaient d'Haïti.
Voilà, origine haïtienne d'Alexandre Dumas. Bon appétit avec le grand Dumas sur France Inter.
And I'm walking alone, yes I'm walking alone, yeah. Moi qu'à lever le matin, moi qu'à prendre un café en moins. Il fait froid et je me sens si seul. J'ai tout laissé derrière moi, je veux pas revenir sur mes pas. Maintenant faut avancer tout seul. Elle m'avait dit, le monde est ton pays. Elle m'avait dit, tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit, ne te retourne pas. Elle m'avait dit, je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, personne. Non. And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Je marche seul. Que le bruit de
I'm walking alone. Descendant dans la villa, on monte pas qu'à calculer moins. Mon café, tes affaires moins, tout fait. Allons moins qu'à penser à. Est-ce vous aussi ou qu'à vivre ça? Est-ce vous aussi ou qu'à sentir toutes ces rêves? Elle m'avait dit, le monde est ton pays. Elle m'avait dit, tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit, le temps fait pas pour moi. Elle m'avait dit, je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, personne. Oh, and I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Je marche seul. I'm walking alone. Je marche seul. Que le bruit de mes pas. And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Que le bruit de mes pas.
Mettons-nous à la table d'Alexandre Dumas et je vous propose, pour commencer, de plonger dans le Vicomte de Bragelonne. Le Vicomte de Bragelonne, Stéphane Sellier, c'est le volume 3 de la trilogie des Trois Mousquetaires, c'est bien ça ?
Oui, exact.
Paru en...
En 1847, mais il s'étale sur 3 ans de publication.
Nous vous faisons revivre le Souper du Roi. Alors c'est Porthos, mais qui ne s'appelle pas Porthos d'ailleurs dans l'extrait. Hein.
Non, il s'appelle Monsieur Duvallon, c'est son titre nobiliaire.
C'est ça, donc Porthos alias Monsieur Duvallon et D'Artagnan sont à la table du roi, le jeune Louis XIV.
Porthos reçut le plat d'agneau et en fit glisser une partie sur son assiette. « Eh bien ?» dit le roi. « Exquis !» fit tranquillement Porthos. « A-t-on d'aussi fin mouton dans votre province, monsieur Duvallon ?» continua le roi. « Sire, dit Porthos, je crois qu'en ma province, comme partout, ce qu'il y a de meilleur est d'abord au roi. Mais ensuite, je ne mange pas le mouton de la même façon que le mange votre majesté. Ah, et comment le mangez-vous ? D'ordinaire, je me fais accommoder un agneau tout entier. » « Tout entier ? Oui, sire. Et de quelle façon ? Voici. Mon cuisinier... Le drôle est allemand, sire. Mon cuisinier bourre l'agneau en question de petites saucisses qu'il fait venir de Strasbourg, d'andouillettes qu'il fait venir de Troyes, de mauviettes qu'il fait venir de Pithiviers. Par je ne sais quel moyen, il désosse le mouton comme il ferait d'une volaille, tout en lui laissant la peau, qui fait autour de l'animal une croûte rissolée. Lorsqu'on le coupe par belles tranches, comme on ferait d'un énorme saucisson, il en sort un jus tout rosé qui est à la fois agréable à l'œil et exquis au palais. Et Porthos fit claquer sa langue. Le roi ouvrit de grands yeux charmés et tout en attaquant du faisan en daube qu'on lui présentait, « Voilà, monsieur Duvallon, un manger que je convoiterais, » dit-il. « Quoi ? Le mouton entier ?»« Entier, oui, sire. Passez donc ces faisans à monsieur Duvallon, je vois que c'est un amateur. »
C'est le premier texte que vous avez choisi pour nous, Stéphane Sellier. Précisons d'emblée que le souper à l'époque, c'est le dîner aujourd'hui. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est le repas du soir.
Le repas du soir, hein, très important pour la sociabilité.
Porthos à la table de Louis XIV. On sent un mousquetaire particulièrement penché sur la chose, voire légèrement obsédé par la bonne chère.
Oui, c'est, ben, on peut dire que c'est l'incarnation de Dumas dans ses œuvres fictives. Hein. Vraiment, il y a toute une dimension autobiographique autour de Porthos. On voit que c'est un personnage. D'abord, il est présenté comme un homme pourvu d'une force herculéenne, d'un appétit gargantuesque. C'est un compagnon fidèle, hein, simple, droit, il est rude et bon. Il a un gros défaut qui est la vanité et on peut retrouver ça aussi chez notre Alexandre Dumas.
Donc vous êtes en train de dire que l'écrivain
et ces héros romanesques se confondent souvent. Hein. Ça veut dire que la vie et l'œuvre de Dumas sont intimement mêlées.
Totalement.
Et la gastronomie a nourri les deux, en fait.
A nourri les deux. Et là, il y a vraiment un va-et-vient permanent entre l'œuvre et la vie de Dumas. Dumas se retrouve dans ses personnages. Ses personnages inspirent aussi la vie de Dumas, qui se met à devenir presque un personnage de KPDP. Donc, les deux se nourrissent.
Est-ce que vous pourriez, Stéphane Solier, nous resituer la figure populaire emblématique d'Alexandre Dumas dans notre littérature? On peut parler d'un croqueur de vie, d'un ogre boulimique, dans tous les sens du terme d'ailleurs.
Dans tous les sens du terme. Quand on parle d'appétit de Dumas, il avait un appétit pour la chair, la bonne chair, mais pour la chair aussi. Il avait beaucoup de conquêtes féminines. Il avait un appétit de succès, un amour pour la littérature. Il s'est essayé à tous les genres. Il s'est fait connaître comme dramaturge, hein, puisque c'est un grand auteur du romantisme flamboyant. Il a été un peu le père aussi du roman feuilleton, hein, du roman historique. Il s'est essayé au récit de voyage et avec un énorme succès, des essais théoriques. Enfin, c'est un touche-à-tout, un mange-tout. Il dévore la vie à pleines dents.
Alexandre Dumas a quasiment traversé tout notre 19e siècle,
oui,
jusqu'à sa mort en
1870. Il est né en 1802, hein. Il naît avec le siècle et il meurt en 1870. Il a connu tous les grands événements historiques de ce 19e riche en rebondissements. Alors, on peut dire que sa vie est romanesque, hein, puisqu'il est issu d'un milieu un peu mélangé, en quelque sorte, hein, puisque si l'on remonte dans ses ancêtres, très vite, sa grand-mère est une femme noire esclave de Saint-Domingue, donc l'Haïti actuelle, qui a eu une relation avec un marquis. Donc, il est moitié marquis, moitié descendant d'esclaves. Et son père est un personnage qui a marqué toute son existence. Son père est le fameux général Dumas, qui s'est fait remarquer dans l'épopée napoléonienne en particulier, hein, comme étant le premier général de couleur. C'est une figure marquante pour Dumas. Il a créé une sorte de légende autour de son père qu'il a perdu très vite, hein, puisqu'il est mort en 1806. Dumas avait 4 ans. Et il est tombé en disgrâce auprès de Napoléon parce qu'il critiquait beaucoup son pouvoir personnel pendant notamment les guerres en Égypte. Cette figure du général Dumas a marqué profondément notre écrivain.
Il est né à Villers-Cotterêts, c'est là où se situe eh bien la Cité internationale de la langue française où vous serez tout à l'heure pour votre dialogue entre Artusi, Dumas, tout à l'heure à 16h pour ceux que ça intéresse. Villers-Cotterêts, c'est également l'endroit où son grand-père avait une auberge. Est-ce que c'est dans ce lieu de dégustation et de bonne chair que se passent les premiers émois d'Alexandre Dumas, les premiers émois gastronomiques, j'entends?
Alors, on aurait pu le penser, mais non. En fait, si l'on regarde alors la Bible aussi pour connaître un peu Dumas et son existence, ce sont ses mémoires qu'il a publiées dans les années 1850. Et dans ses mémoires, il évoque cette enfance très longuement. En fait, à aucun moment il n'évoque de plaisir gastronomique lié à son enfance. Il évoque quand même dans le chapitre 2 un lieu, le château des Fossés, qui est un lieu où il a vécu. « Je me rappelle la topographie partielle d'un petit château que nous habitions et qui se nommait les Fossés. Cette topographie se borne à la cuisine et à la salle à manger, les deux endroits que je fréquentais sans doute avec le plus de sympathie. » Donc il parle de sympathie, mais il n'y a pas de souvenir gastronomique. Il évoque dans les années 1858, dans ses causeries culinaires, le fait que ce grand-père était cuisinier et qu'il avait passé ses recettes à sa mère, mais là aussi, c'est une reconstruction tardive, puisqu'il dit, dans cette causerie, « Ce ne fut que plus tard, et quand je réfléchis sur la cuisine, que ces recettes de mon grand-père se présentèrent à mon esprit. » Donc c'est plus tard. En fait, il n'a pas une conscience d'une sorte d'appétence pour le plaisir culinaire. Et dans ses mémoires, il parle d'une recette de haricots de mouton, c'est au ragoût de mouton que sa mère préparait, mais pas du tout du point de vue gastronomique. Il le traite de façon historique. Sa mère a préparé par 3 fois un ragoût de mouton, un haricot de mouton, en fait pour calmer la férocité des Cosaques qui descendaient à la chute de Napoléon, qui était en train d'envahir la France, notamment la France du Nord et Villers-Cotterêts en particulier. C'était une tentative par sa mère d'éviter des représailles des Cosaques.
En revanche, il y a des épisodes d'école buissonnière, entre guillemets, qui ont vraiment marqué l'enfance d'Alexandre Dumas, et notamment ce braconnage qu'il pratiquait dans ses forêts natales.
Alors là, oui, Villers-Cotterêts, c'est le terrain de jeu du chasseur-né qu'est Dumas. Effectivement, il passe son enfance, plutôt qu'à l'école, à buissonner dans toutes les forêts, à braconner, à troquer. Alors là, oui. Et plus tard, il reconstruit là aussi cet imaginaire, cette légende du chasseur, pour arriver au résultat de sa savoir cuisiner ou écrire, il faut être chasseur de sa personne. C'est une citation de la préface du petit dictionnaire de cuisine, puisqu'il y a eu plusieurs versions du dictionnaire de cuisine. Et j'adore sa définition du chasseur qu'il donne dans le grand dictionnaire de cuisine. Il dit « homme jovial, bien portant, mangeant bien, buvant encore mieux, se couchant de bonne heure, se levant matin, dormant toute la nuit ». Et il dit « chasseur qui chasse pour le plaisir et la gourmandise ». Je me rappelle dans mes premières chasses avoir chassé souvent avec un fermier nommé Moquet. Quand il manquait une perdrix, il était rare qu'on ne l'entendît pas s'écrier « sapristi, elle aurait été si bonne aux choux ». Et quand c'était un lièvre, « sapristi, il eût été si bon aux petits oignons ». On voit que pour Dumas, la cuisine, c'est moins une cuisine élaborée, en tout cas dans son imaginaire, sa mythologie d'enfance, qu'une cuisine liée à la cueillette, au prélèvement de la chasse, bref, une cuisine primitive.
Il raconte également, je crois, qu'à 20 ans, à la barbe des gardes forestiers, il échange du petit gibier contre de l'argent pour s'offrir avec, je crois que c'était 53 francs,
oui.
Son premier voyage à la capitale, à Paris.
Exactement.
Qui va être son tremplin et qui va être évidemment le lieu de sa réussite.
Son entrée dans le monde de la capitale se fait par un échange, un troc de ses produits de chasse pour pouvoir bénéficier d'un hébergement puisqu'il n'avait pas d'argent.
Stéphane Sollier, le physique d'Alexandre Dumas, en quoi peut-il donner un indice sur l'évolution de sa passion gastronomique? Je crois qu'il a commencé très filiforme. Hein.
Ah oui, c'était un très très maigre, mais très grand. Alors il a une taille imposante, hein, certains disent près de 2 mètres. Alors les frères Goncourt parlent d'une sorte de géant, mais très très fin au départ, et qui a atteint un poids conséquent, quasiment 100 kilos, à partir des 45-50 ans à peu près.
Ah oui.
Période de sa gloire romanesque. À partir du moment où il a du succès dans ses romans historiques, il prend du poids. Alors, enfant, c'est un enfant blond aux yeux bleus, bleu saphir dont tout le monde parle, au teint clair, malgré son père métis. Et c'est plus tard, à l'adolescence, vers 14 ans, que ses cheveux se mettent à crêper et que sa peau se met à brunir. Donc c'est un personnage qui impressionne par ce physique de géant et cette chevelure abondante que l'on représentera beaucoup dans les caricatures, notamment quand on le caricature en train de cuisiner.
Il a carrément d'énormes choucroutes sur la tête.
Oui, ça fait partie, bien sûr, d'un imaginaire qui est aussi un imaginaire raciste, hein, puisqu'il a été en butte à des caricatures extrêmement féroces, dont il s'est souvent bien tiré parce qu'il avait du panache et de la répartie. Et c'est vrai qu'on le représente avec l'hippu, avec des grosses lèvres et cette chevelure abondante. Ça ne l'a jamais empêché de réussir et d'atteindre le succès qu'il a toujours voulu obtenir.
Stéphane Sollier, les écrits de Dumas concernant la nourriture et la gastronomie, ce sont, comme on l'a vu, des scènes de romans. Hein. On vient d'entendre un extrait du Vicomte de Bragelonne, mais ce sont aussi toute une kyrielle d'écrits, de causeries, de lettres, d'articles de journaux, de réflexions, de considérations.
Oui, en fait, il passe très vite de la théorie à la pratique. Il s'essaye à des recettes qu'il écrit dans des journaux, puisque très vite, il va devenir aussi journaliste. Hein. Il va être propriétaire de journaux. Et donc, il développe son amour de la nourriture à partir des années 40, on peut dire vraiment, dans toutes sortes de supports. Et aussi dans ses œuvres de fiction, comme on l'a vu avec les personnages des Trois Mousquetaires.
Stéphane Sollier, vous voulez nous faire entendre un texte, on va l'écouter, c'est celui qu'il livre dans ses mémoires, là on est aussi au milieu du siècle. Hein.
Oui, dans les années 1853-55.
Donc c'est pas à la fin de sa vie en fait qu'il écrit ses mémoires, il a déjà une certaine idée de lui-même quand même.
On verra qu'il a une sorte de culte de lui-même, comme il a développé un culte pour son père.
Et il écrit dans ses mémoires donc une réflexion sur le statut et l'importance du souper à la française.
L'absence du souper a sur la civilisation des conséquences plus fâcheuses qu'on ne croit. C'est à l'absence du souper et à la présence du cigare que j'attribue la dégénérescence de notre esprit. Non pas que je dise que nos fils ont moins d'esprit que nous, Dieu m'en garde, et j'ai pour mon compte un fils qui ne me le pardonnerait pas, mais ils ont un autre esprit. Reste à savoir quel est le meilleur du leur ou du nôtre. Notre esprit, à nous autres hommes de 40 ans, est un esprit qui tient encore un peu de l'aristocratie du XVIIIe siècle, modifié par le côté chevaleresque de l'Empire. Les femmes avaient une grande influence sur cet esprit-là.
Cet esprit-là, c'était surtout le souper qu'il entretenait. À 11h du soir, quand on est délivré des soucis de la journée, quand on sait qu'on a encore 6 ou 8 heures que l'on peut employer à son loisir entre la veille et le lendemain, quand on est assis à une bonne table, qu'on coudoie une belle voisine, qu'on a pour excitant les lumières et les fleurs, l'esprit se laisse emporter tout éveillé dans la sphère des rêves. Et alors, il atteint l'apogée de sa vivacité et de son exaltation. Non seulement on a à souper plus d'esprit qu'ailleurs, plus d'esprit qu'aux autres repas, mais encore on a un autre esprit. Je suis sûr que la plupart des jolis mots du XVIIIe siècle ont été dits en soupant. Plus de souper, donc absence de cet esprit qu'on avait en soupant.
À entendre les écrits d'Alexandre Dumas, notamment donc dans ses mémoires, on a le sentiment que l'esprit français consiste un peu à penser et à se remplir la panse.
Oui, c'est une réunion des nourritures terrestres et spirituelles. Mais en ça, vraiment, là, on voit qu'Alexandre Dumas est héritier du XVIIIe siècle, de l'évolution même de la pensée, du discours gastronomique, puisque ça commence avant le XIXe, cette idée que la gastronomie devient un art, devient une science à part entière. Et la France façonne à ce moment-là son destin de référence gastronomique dans une tradition développée par ses contemporains, Carême, Brillat-Savarin. Le souper n'est pas qu'un plaisir de gourmandise, il participe à un esprit de civilisation.
Et ça, c'est très français.
Et c'est très français. Encore aujourd'hui, c'est un peu unique au monde, hein, cette idée qu'on lie les deux.
Avec ce qui se passe évidemment du côté de l'assiette, mais également dans le verre.
On va déguster sur France Inter.
Que se passait-il justement dans le verre, mais aussi dans la cave d'Alexandre Dumas? On a Antoine Gerbel, évidemment, notre chroniqueur vin, pour nous en parler.
Alors, ouvrons le grand dictionnaire de cuisine, allons à la lettre V comme vin, et que lisons-nous? Nous voilà arrivés à un point tellement important de la gastronomie, et surtout de la gastronomie moderne, que nous nous croyons dans la nécessité d'ouvrir une parenthèse. Il s'agit du vin, c'est-à-dire la partie intellectuelle du repas. Les viandes n'en sont que la partie matérielle. Cette phrase est restée bien évidemment dans les esprits de tous les amateurs de vin, des mots qui restent, et pourtant, dès qu'on se plonge dans la vie de Dumas, on découvre que c'est un buveur de vin très tardif, parce que l'auteur de Trois Mousquetaires, il avait déjà fait boire mais des litres et des litres à tous ses personnages, et qu'on va à la lettre E de ce fameux dictionnaire, on découvre cette phrase suivante: « Pendant 50 ou 60 ans de ma vie, je vous rappelle qu'il est mort à 68 ans, je n'ai bu que de l'eau. Et jamais Grand Lafitte ou Chambertin. » Alors c'est ça qui est assez intéressant, et ça, je pense que quand on lit Dumas, beaucoup de choses se mélangent, le vrai, le faux, aller prendre chez certains auteurs qui étaient à la mode à l'époque, parce qu'il avait une immense culture, on le sait. Mais
il écrivait sa légende quand même.
Il était en train d'écrire sa légende, et je pense qu'il a croisé aussi, il faudrait fouiller, mais vraiment des grands amateurs de vin qui l'ont impressionné, aussi bien chez les aristocrates que, on va dire, dans ses nombreux voyages. Parce que dans ses nombreux voyages, là par contre, il y a une contradiction, c'est qu'il a des témoignages comme quoi il buvait énormément, et il a même des records, hein, il a bu en Géorgie plus de 20 ou 30 bouteilles la même journée. Donc voilà, on est dans l'excès. Pour son dictionnaire, il a mis de côté l'excès et il a fait, en fin de compte, œuvre aujourd'hui encore incroyablement de comment raisonner l'approche du vin. Alors, raisonner déjà comment constituer une cave, parce qu'il y a aussi un article cave qui est passionnant. Alors, totalement d'actualité, il faut pas que la cave soit trop humide, et surtout, étonnant, il faut pas qu'elle soit trop près de la route, parce que les calèches donnent des vibrations. Moi, j'ai lu, quand j'ai commencé dans le vin, les mêmes indications sur le métro, oui, ou sur les voitures.
Donc, il y a des considérations très techniques, en fait.
Très, très techniques. Et en plus, pour son époque, il raconte aussi comment améliorer, parce que le vin était en bouteille, mais plus souvent en tonneau, comment améliorer les vins qui se piquent, comment améliorer les vins qui ont des maladies. Et ça, c'était très, très pratique. Et dans sa liste, l'énumération qu'il fait de la cave idéale, c'est incroyable, parce qu'encore aujourd'hui, je pense qu'il ne manque rien. Je pense très honnêtement que c'est le premier grand classement de guide avant le fameux Robert Parker américain, où chez nous, un grand personnage que j'aime beaucoup s'appelle Michel Bétan, qui a vraiment codifié les vins français. Bah, lui, déjà, je pense que tous ceux-là s'en sont vraiment inspirés, parce que il y a les très grands vins français, les vins ordinaires, et puis les vins étrangers, parce que si on se réfère à cette liste de 150 vins qu'on trouve à la fin de l'article cave, il y a quand même, sur 150 vins, 40 vins étrangers. C'est-à-dire qu'il y avait une modernité, un côté européen dans l'approche du goût, beaucoup beaucoup plus large qu'aujourd'hui, parce que le buveur français, il est très franco-français. Là, on boit des vins d'Espagne, on boit des vins de Turquie, on boit des vins de Grèce, beaucoup de vins mutés, beaucoup de vins donc avec de l'alcool ajouté pour garder des sucres. Ça, c'est un goût qui a disparu, parce que le sucre était bien plus rare dans la cuisine qu'aujourd'hui. Et puis encore plein de pépites. Alors bon, moi j'avais vraiment énormément de choix pour, on va dire, conclure cette chronique. Et puis je me suis, l'esprit de contradiction, je me suis dit, il y a deux personnages que j'aurais aimé qu'ils se rencontrent, et je sais qu'ils s'aimaient pas du tout, c'est Balzac et Dumas.
Ah oui, il y avait une certaine rivalité entre eux. Hein.
Oui, oui, alors justement, Balzac reprochait l'emphase du personnage, peut-être son succès aussi. Mm-hmm. Et puis Balzac, c'est un écrivain beaucoup plus politique. Mais bon, je les imaginais, et puis il y a un vin, j'ai dit, quel vin pourrait les réunir? J'ai pensé aux...
Les réconcilier,
j'ai pensé au Vouvray, puisque voilà, le Lys dans la Vallée, c'est vraiment le territoire un peu tourangeau de Balzac. Et dans sa liste, l'avant-dernier vin des 150 de la liste CAB, juste avant Xérès, c'est Vouvray Blanc.
Et ben voilà.
Donc voilà. Alors, et puis ça me donnait aussi l'occasion, très honnêtement, de vous parler de cette petite appellation que j'aime énormément, qui est le Vouvray. On est en Touraine, vous le savez bien, un seul cépage que du blanc, le Chenin. Une appellation qui est une renommée internationale, et pourtant à l'intérieur, et je vais sortir le bâton encore une fois, beaucoup de gens qui ne travaillent pas à la hauteur de cette appellation, beaucoup de gens qui vont dans la facilité. Il y a un taffetas, disait Balzac, à propos du Chenin de Vouvray, et ce taffetas, eh bien, on le retrouve malheureusement pas assez souvent. Mais il y en a. Et je vous ai amené deux nouveaux vins que j'ai découverts il y a quelques semaines. Deux vins typiques de Vouvray, un pétillant naturel, donc vous savez, c'est cette version de vin blanc avec encore un peu de sucre qu'on bouche en bouteille et puis qui donne ces petites bulles très légères. Et ça, c'est une toute jeune néo-vigneronne. Elle a une belle carrière dans la publicité. Et puis, en 2017, elle emmène la famille en Touraine. Elle ouvre une chambre d'hôte. Et au bout du jardin, la chambre d'hôte, il y a des vignes. Il y a un grand personnage qui travaille tout au cheval. Elle le rencontre. Elle tombe complètement amoureuse de son travail. Et depuis, elle se forme. Ça s'appelle Pompette. C'est très joli comme nom. L'étiquette, elle est très marrante. Chenin pétillant. Elle n'est pas en Vouvray parce qu'elle est en vin de France. Bon, c'est un autre débat, mais elle mériterait largement. Et l'autre vin que je vous ai mis dans le verre de droite, c'est un Vouvray beaucoup plus classique. C'est un très beau territoire qui s'appelle Clos de l'Épinay, qui a une vieille histoire, mais on va dire que les anciens propriétaires, ben un peu comme j'évoquais précédemment, se laissent un peu couler. Le côté un peu endormi de Vouvray, et là il y a un tout nouveau propriétaire qui s'est associé à quelqu'un qu'on a déjà évoqué dans l'émission. Le propriétaire, il s'appelle Antoine Labrosse et il s'est associé avec Henri Bruneau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé du domaine des deux frères à Chignon,
oui,
il y a quelques temps.
Oui, évidemment.
Et ben, les deux frères se sont séparés, mais on le retrouve, voici, au Clos de l'Épinay, quelqu'un qui sait faire des très beaux chenins naturels.
Voilà. Très tendu, avec une très jolie tension.
On vous les imaginait bien, ces deux verres en face avec Dumas et Balzac, là en face de l'autre. Le Vouvray sec, 16 euros. Le Vouvray pétillant, 14 euros. Voilà, ce sont des prix assez sages. Des jeunes vignerons qu'il faut absolument encourager.
Un grand merci pour votre coup de cœur, Antoine Gerbel. Vos infos à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Si ça vous va, Stéphane Sellier, dans un instant, on évoque Alexandre Dumas, le gastronome voyageur.
J'avance comme une ombre, me mélangeant aux autres ombres, tu n'y vois que du feu, je m'approche, pourtant si près de toi, à te toucher du doigt, mais la foule. Dans mes bras. la foule.
Bastien Lallemand avec son nouveau titre, L'Anonymat.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
On brosse le portrait gourmand d'Alexandre Dumas avec notre gourmet lettré Stéphane Solier, notre chroniqueur vin Antoine Gerben, notre spécialiste de la cuisine italienne Alessandra Pierini. Oui, car on va voir que Dumas et l'Italie, c'était un peu « je t'aime moi non plus ». Allez, une autre lecture. Cette fois-ci, un extrait du Comte de Monte Cristo. Vous nous resituez ce roman, cher Stéphane.
Il fait partie des grands romans à succès des années 1844-45.
Alors là, on va entendre Franz Quesnel d'Épinay, qui est un des personnages de l'intrigue, et qui visite, au cours d'une partie de chasse, tiens, on retrouve la chasse, l'île apparemment déserte de Monte Cristo. Il y rencontre un groupe de brigands dont le chef est...
Sinbad.
Le marin, c'est ça. Oui. Sinbad le marin, derrière lequel on devine...
Le comte de Monte Cristo, hein, déguisé.
C'est le comte de Monte Cristo déguisé. Eh bien, Sinbad le marin sert à Franz un somptueux festin.
Franz marchait d'enchantement en enchantement. La table était splendidement servie. Une fois convaincu de ce point important, il porta les yeux autour de lui. La salle à manger était non moins splendide que le boudoir qu'il venait de quitter. Elle était tout en marbre avec des bas-reliefs antiques du plus grand prix. Et aux deux extrémités de cette salle, qui était oblongue, deux magnifiques statues portaient des corbeilles sur leur tête. Ces corbeilles contenaient deux pyramides de fruits magnifiques. C'étaient des ananas de Sicile, des grenades de Malaga, des oranges des îles Baléares, des pêches de France et des dattes de Tunis. Quant au souper, il se composait d'un faisan rôti entouré de merles de Corse, d'un jambon de sanglier à la gelée, d'un quartier de chevreau à la tartare, d'un turbot magnifique et d'une gigantesque langouste. Les intervalles des grands plats étaient remplis par de petits plats contenant les entremets. Les plats étaient en argent, les assiettes en porcelaine du Japon. Franz se frotta les yeux pour s'assurer qu'il ne rêvait pas.
Un extrait du Comte de Monte Cristo avec cette fabuleuse corne d'abondance de produits exotiques, de préparations luxueuses. Corne d'abondance qui est un peu à l'image finalement du train de vie et du régime gastronomique d'Alexandre Dumas, Stéphane Solier.
Oui, là on devine tout de suite le goût du luxe, de l'exotisme, des produits de la chasse et de la pêche.
Et oui.
Et on sait que Alexandre Dumas avait un train de vie qui défrayait la chronique, puisque il finit à la fin de sa vie, il dit à son fils, Alexandre Dumas, fils, il dit à son fils, on a dit que j'ai été prodigue, mais en fait, regardez, j'ai commencé ma vie avec 2 louis, je finis ma vie avec 2 louis, je n'en ai pas dépensé, bah oui, qu'au milieu, il a eu une richesse colossale.
Mais c'était carrément la folie des grandeurs.
Folie des grandeurs.
Dans ses dépenses, dans ses projets, dans ses réceptions.
Ah oui, tout. En fait, il se lançait dans la construction de théâtres, de maisons pour lui. Et peut-être l'un des moments les plus forts de sa vie de gastronome, c'est ce bal qu'il a organisé en 1833, en mars 1833. Alors, il venait d'emménager dans un... Aujourd'hui, c'est le square, j'y suis allé avant-hier, le square d'Orléans, une cité privée. Et en fait...
On est donc à Paris,
À Paris. Ce square était un square à l'anglaise avec pas mal de petites maisons. Il occupait un étage et il a décidé d'organiser un bal, le premier de ses grands raouts.
Un bal costumé, je crois.
Un bal costumé à 700 personnes, avec toutes les personnalités de l'époque, Rossini, Mademoiselle Georges, Guillaume Zimmermann, tous étaient déguisés. Il a demandé à ses amis peintres de faire la décoration, parmi ses amis peintres, juste un petit Eugène Delacroix, quand même. Et une soirée qui a été accommodée par le traiteur Chevert, qui lui a fourni un saumon de 30 livres, un esturgeon de 50 livres, une gigantesque galantine de volaille, en échange de plusieurs pièces de gibier qu'il avait chassées peu de jours auparavant. Et on sait que toutes les victuailles ont été englouties, ainsi que les 300 bouteilles de Bordeaux, 300 bouteilles de Bourgogne et 500 bouteilles de champagne. Voilà, de quoi était capable le jeune Dumas. Là, en 33, il a 31 ans. Il vient d'avoir des succès au théâtre, mais c'est pas non plus la grande fortune qu'il aura après. Et quand il va avoir le point culminant, en quelque sorte, hein, de cette folie des grandeurs, ça va être son château de Monte-Cristo. Là aussi, on voit bien son ego surdimensionné.
Et preuve là encore que l'œuvre et la vie, le comte de Monte-Cristo en roman, et tout d'un coup apparaît ce château de Monte-Cristo en
1847, 46-47, hein, il décide de s'offrir une réduction du paradis terrestre. Donc un château néo-renaissance avec un autre petit château, le château d'If, qui va être son petit bureau. Mm-hmm. Et c'est un château dans lequel les sous-sols vont être occupés par d'immenses cuisines, parce qu'il a bien l'intention de faire des réceptions, de cuisiner lui-même, et en même temps il a une activité d'écriture extrêmement frénétique, donc il doit un peu gérer les deux. Ses habitudes dans la journée, c'est: je travaille dans mon petit château d'If et je suis plutôt austère, on m'apporte des pommes de terre en robe de chambre, je bois de l'eau, etc.
Régime frugal
pendant que les autres parasites se nourrissent à ses frais dans la journée, et puis le soir grande festivité, et voilà, c'est le grand luxe, mais ça va durer un an et demi. Grosse faillite, 48.
Oui, c'est ça, parce que tout ça coûte beaucoup d'argent.
Exactement, et surtout, il a à ses crochets énormément de parasites. Il est très généreux, et en 48, la révolution de 1848 le met sur la paille, et il est obligé de vendre le château de Monte-Cristo.
Pour ceux que ça intéresse, il existe encore ce château de Monte-Cristo, oui. Où se situe-t-il ?
Il se situe à Port-Marly, hein, mm-hmm. Il est dans les environs de Paris. C'est un château qui a failli être rasé en 1969, et heureusement, les villes de Marie-Leroy, Port-Marly et l'association des amis d'Alexandre Dumas ont sauvé le château, l'ont fait restaurer. Il faut savoir qu'il y a un magnifique salon mauresque qui a été restauré par des Marocains sous le mécénat de l'ancien roi du Maroc, Hassan II. Et donc c'est un endroit qui est magnifique, on sent encore l'esprit de Dumas. J'ai juste un petit regret, j'adorerais que les cuisines soient restaurées. Enfin, il n'y a plus de cuisine dans les sous-sols, ce seront des locaux techniques. Je rêverais qu'on reconstitue les cuisines d'Alexandre Dumas au château de Monte-Cristo.
Eh ben, le message est passé, j'espère qu'il va porter loin auprès de nos autorités pour reconstituer la cuisine du château de Monte-Cristo. Allez, on évoque évidemment un autre aspect de ce personnage et qui, fait l'objet de la même boulimie, de la même curiosité, de ce même appétit, ce sont les voyages. Ce fut un voyageur curieux et compulsif.
Ah, compulsif, totalement. En fait, dès son jeune âge, il a le goût, il a la bougeotte, il va avoir envie de faire ce qu'on appelle le tour, hein, le grand tour, c'est-à-dire ce que les romantiques faisaient, le tour de l'Europe, découvrir les civilisations qui nous sont communes. Et il a déjà un regard affûté sur les cuisines de ces pays-là, mais c'est surtout à partir de la faillite de 1848 qu'il va avoir une bougeotte un peu pour échapper, bien sûr, aux huissiers et en même temps pour se renouveler. C'est-à-dire qu'il a essayé le drame romantique, il a essayé les romans feuilletons et il va se jeter à corps perdu dans cette sorte de boulimie de découvrir le monde à travers ses yeux, à travers sa culture, mais aussi à travers son ventre.
Dans les années 1850, Belgique, Allemagne, Italie, on va y revenir, Espagne, Maghreb, Angleterre, une grande expédition en Russie, et chaque voyage est évidemment un prétexte pour découvrir les gastronomies étrangères.
Ah oui, si on lit les récits de voyage, on découvre des curiosités, les pâtes d'ours lors de son voyage en Russie, des plats de poisson fumés, de l'onagre, du lait de jument fermenté, toujours en Russie, hein. En Géorgie, il organise lui-même des repas, puisqu'il aimait passer derrière les fourneaux. Il découvre le shashlik dans le Caucase, hein, qui est l'ancêtre du kebab.
C'est ça, brochette grillée.
Partout où il va, en fait, il a cette curiosité de découvrir ce qui fait le fondement même d'une culture et d'une civilisation.
Et il y a un prisme dumasien assez particulier, singulier, voire obsessionnel pour l'Italie, évidemment, hein.
Oui, alors l'Italie, il la découvre dès les années 1830. Il est très jeune avec ses maîtresses. Il va à Florence, il découvre Rome. Il a une histoire très particulière avec le sud de l'Italie, notamment le royaume des Deux Siciles, puisque son père, en fait, lorsqu'il a été en disgrâce auprès de Napoléon, a été fait prisonnier et est resté 2 ans dans les geôles du roi de Sicile. Et les conditions étaient terribles et son père en a retiré des séquelles terribles dont il est mort. Et donc Dumas a un antagonisme avec ce royaume-là, et pour autant il découvre les richesses et le caractère incroyable de ce pays dont on dit qu'il n'aimait pas la cuisine. Et moi je tiens à dire quand même que il aime la cuisine du produit en Italie. Quand on découvre ce qu'il dit de la figue de Barbarie de Sicile, de l'espadon, un chef-d'œuvre de plat, quand on voit ce qu'il dit de la mozzarella di bufala, fromage excellent que l'on appelle en Italie œuf de buffle, quand on voit ce qu'il dit des pastèques de Castellammare, qui ont un aspect à la fois joyeux et appétissant, on comprend qu'en fait, ce qu'il aime de la cuisine italienne, c'est la cuisine des produits. C'est très moderne.
France Inter.
Buon appetito.
On va déguster.
Alessandra Pierini, Alexandre Dumas, au cœur d'une guéguerre autour d'une spécialité transalpine, le macaroni d'Italie.
Macaroni d'Italie, c'est facile à dire. Si on savait quel coulis de viande, quelle purée de tomates, quelle fleur de parmesan, quelle crème de beurre, quelle finesse de pâte et quel point de cuisson, quelle surveillance active et quel soin minutieux exige ce mets compliqué, on renoncerait à des contrefaçons pitoyables qui déshonorent la cuisine française, la première cuisine du monde. Il faut tout le génie de Rossini, l'auteur de Guillaume Tell, pour composer un macaroni parfait.
Alors là, ce n'est pas Alexandre Dumas qui écrit, hein ?
Mais bien sûr que non, c'est le poète du 19e siècle Charles Moncelet qui a exposé dans son Gastronomie récit de table la recette donc des macaronis de Rossini. Mais il faut dire que donc notre Alexandre Dumas était plutôt en désaccord avec ces affirmations si élogieuses. Et pour cause, Dumas et le célèbre compositeur italien Gioachino Rossini sont les protagonistes d'une anecdote particulièrement savoureuse qui est passée à l'histoire comme la guerre des macaronis.
Ah, j'aime beaucoup ces histoires, moi.
Qui a été déclenchée à propos de ce mets que, je cite, tout le monde connaît ces longs tuyaux de pâte semblables à de gros vermicelles creux et dont le nom indique assez l'origine. L'Italie, Naples surtout, est la patrie du macaroni. Les querelles gastronomiques entre ces deux grands noms sont très célèbres. Aussi bien en chair que Dumas, Rossini se définissait lui-même comme un pianiste de troisième ordre et le premier gastronome de l'univers.
Il exagérait dans les deux sens.
Un petit peu, oui. C'était bien sûr un créateur, entre autres, du légendaire Tourne-d'eau Rossini.
Et bien, bien sûr, le Tourne-d'eau Rossini, on le doit à ce compositeur italien.
Dumas nous raconte que malgré ses longs séjours napolitains, il n'appréciait guère ses pâtes et un jour, quand un ami lui demanda la recette des macaronis à la napolitaine, il se trouva en difficulté car il ne connaissait pas un seul mot de cette recette. Il décide alors de la demander à Rossini, dont la préparation a la prétention de ne pas avoir d'égal dans toute la péninsule. Flatté par cette requête, le maestro lui répondit avec une lettre. « Oh, mon cher Dumas, je ne donne pas ma recette. Elle est trop précieuse. Mais venez manger donc du macaroni chez moi. Et si vous êtes aussi bon cuisinier qu'on le dit, vous reconnaîtrez bien les éléments de mon plat favori. »
Et tout cela est véridique, hein ?
Tout à fait. Dumas se fait une joie de se rendre à Bologne pour participer au festin, mais au moment du service, déçu, refusa catégoriquement de manger ce plat qui n'avait en réalité pas grand-chose de napolitain. Un affront que Rossini n'a jamais digéré. Il présente donc une recette de macaroni extrêmement baroque, très élaborée, j'oserais dire même très prétentieuse et sophistiquée. Et personnellement, je ne me lancerai pas du tout dans la préparation.
Ah, vous ne défendez hein. pas votre compatriote, Alessandra ?
Pas cette fois-ci, ben, pas du tout. Dans cette recette de Rossini, les tubes de pâte avaient été farcis un par un avec une seringue en argent conçue spécialement pour l'occasion, avec une farce richissime à base de foie gras, champignons, jambon, crème, beurre, tomate, champagne, gruyère, parmesan, bouillon et mijoter une heure.
On dirait presque de la cuisine française, en fait.
Ce qui n'était digne plutôt, bien sûr, d'un palace parisien et pas vraiment d'une cucina povera napolitaine. Une honte, une vraie parodie du véritable macaroni. Et donc, malgré tout, grâce à ce scandale gastronomique, notre cher Alexandre Dumas, pour notre grand bonheur, y met au point sa propre recette de macaroni. Plus proche du macaroni napolitain, même si tout aussi improbable, car on y cuit quand même 1 kg de viande de bœuf pendant bien 7 heures, uniquement pour le jus rendu par sa cuisson. Mais bien sûr que nous nous réjouissons de goûter.
Donc, vous nous avez apporté un plat en terre cuite, c'est bien ça ?
Absolument. Wow. Je l'ai fait dans une soupière, comme on recommande bien sûr Dumas. Et ces macaronis donc, sont cuits à l'eau aux trois quarts. J'ai empilé les macaronis sur des couches de parmesan et de ce jus de viande concentré.
Oui.
Ça fait donc un plat comme un peu un escargot. Quand on découpe, donc, on voit donc, la coupe de ces tuyaux de pâte creux à l'intérieur. Donc ce n'est bien sûr pas un gratin, hein. C'est pas gratiné au four.
Même si vous mettez un peu de parmesan à la fin.
On met un peu de parmesan, mais sans le faire gratiner. C'est comme des grosses pailles, en fait, creuses à l'intérieur. Elles font le tour de la soupière, une sur l'autre, intercalées avec le jus de viande bien concentré,
dont
un petit peu de parmesan
vapeur. Dont les pâtes se sont imbibées.
Se sont imbibées de jus, donc c'est extrêmement goûtu. Quand on les voit, bon, ça paye pas trop
de... Ah non, c'est impressionnant.
C'est joli, c'est joli à voir.
Mais j'ai des souvenirs de macaronis à la cantine, j'avoue que...
c'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas ?
Non, puis surtout, la préparation... Alexandra, elle est très légère.
Là, c'est Dumas qui est dans le vrai.
C'est la recette de Dumas, en fait, qui est la plus italienne, et pas vraiment celle de Rossini, qui ressemble plus à une recette de gastronomie française.
Quel beau cadeau, la recette d'Alessandra Pierini, inspirée d'Alexandre Dumas, évidemment, sur franceinter.fr.
Absolument,
à la page
vous pouvez la retrouver.
C'est prodigieux. Un petit temps de préparation, quand même. Hein.
Ben voilà, il faut
7 heures de cuisson,
mais avant, il faut préparer le bouillon, bien sûr, donc il faut la journée.
Quel régal. Cette recette de macaroni, Stéphane Sellier, c'est encore la preuve qu'Alexandre Dumas, c'est aussi un véritable répertoire culinaire qui a non seulement influencé à son époque et encore jusqu'à aujourd'hui. Si vous prenez le grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas, d'abord il est bien au chaud dans le bureau dont on va déguster et régulièrement on y fait mention, mais on le trouve aussi dans les cuisines des grands chefs aujourd'hui, Alain Ducasse, Jean-François Piège, pour ne citer que.
Tous les grands chefs se réfèrent à cet incontournable de la culture gastronomique de notre pays et même du monde. D'ailleurs, ces deux chefs ont participé à des éditions du Grand Dictionnaire en apportant des recettes qu'ils ont un petit peu modernisées, parce qu'il faut dire quand même que le Grand Dictionnaire de cuisine de Dumas est extrêmement riche de recettes, mais ces recettes sont souvent difficiles à faire parce qu'il n'y a pas les proportions, parce que
donc
parfois
il faut
elles
les interpréter.
Et puis elles sont un peu parfois inventées, fantastiques, elles sont pas toutes rigoureuses, mais ça fait partie aussi du personnage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas qu'à influencer aujourd'hui, il a aussi influencé de son temps. On parlait d'Artusi qui l'a influencé, mais à l'époque, il y a une petite histoire qui est assez rigolote, c'est qu'il a influencé des pâtissiers. Et là, on voit encore que la littérature influence la réalité influence la littérature. Vous connaissez tous les frères Julien qui étaient ces pâtissiers qui ont inventé...
On a un peu oublié aujourd'hui.
On a un peu oublié, mais qui sont quand même
les stars de l'époque.
Mais qui sont surtout les pères du Savarin, du Richelieu, du gâteau aux trois frères, et avec leur ami Bourbonneux, qui était un autre pâtissier qui était en train de naître et qui voulait un peu trouver sa place à Paris. Les frères Julien sont allés au théâtre un certain soir de 1860, assister à une pièce de théâtre, La Dame de Montsoreau, d'Alexandre Dumas. Et ils ont ri aux éclats, comme le tout Paris de l'époque, à un personnage d'un moine gourmand qui se faisait rouler dans la farine dans cette pièce. Et ce personnage de moine, qui s'appelait Goranflot, a donné l'idée...
Goranflot
a donné l'idée à Bourbonneux, pour lancer sa carrière, de reprendre la recette du Savarin des frères Julien, avec leur bénédiction, et de créer une pâtisserie qu'on appelle le Goranflot, qui est un peu tombé en désuétude aujourd'hui. Mais
on la trouve plus, cette recette.
On la trouve plus. Alors, on la trouve dans certains livres de Jules Gouflet, par exemple, ou dans Pierre Lacan sur l'histoire de la pâtisserie. Mais c'est vrai que ça n'est plus une pâtisserie parisienne que l'on trouve et qui a des parentés avec le Savarin.
Le Goranflot. Et si on faisait ressurgir cette recette de Goranflot, Stéphane Sellier, on a une petite surprise pour vous, justement.
Non.
Si ? Il y a quelqu'un qui entre dans notre studio avec...
Non !
Merveille !
Au micro, Thomas Darcos, c'est une petite surprise, le Goranflot, mitonné par notre chef cuisinier dans la bande dont on va déguster... Il vous plaît ou pas ?
Alors, je dois dire que la forme n'est pas tout à fait la forme canonique.
Ah !
Parce qu'en fait, Bourbonneux, quand il a voulu créer son Goranflot, a demandé à Trottier de lui faire un moule particulier, qui était un moule hexagone à six côtés.
Là, c'est plutôt la couronne de Savarin.
Voilà.
Là, que s'est-il passé, Thomas Darcos ? On n'a pas trouvé de moule hexagonal ?
J'adore.
J'en ai trouvé un, mais ça a été assez compliqué de l'acheminer, donc je l'ai fait dans un moule à Savarin classique.
Alors, cette recette, vous nous racontez en deux mots comment vous l'avez faite ?
Alors, en deux mots, d'ailleurs, je pense que la recette est mise à votre disposition sur le site internet, pâte à Savarin classique, qu'on cuit au four à 180 degrés. Et ensuite, une fois que ce savarin il est sec, on vient l'imbiber dans un sirop. Là, je me suis basé...
Alors qu'il n'a rien à voir avec le sirop au rhum du classique baba.
Rien du tout. Là, je me suis basé en fait sur deux récits que j'ai pu retrouver. Le gouffet pour la recette du savarin et le lacan pour le sirop. On te retrouve des traces d'absinthe, de notes anisées et d'amandes.
Ça, il y a de l'anis, hein, de l'anis étoilé.
Exactement. Et je viens imbiber mon baba à l'intérieur pendant deux heures, une fois que le sirop a atteint 65 degrés.
Ça a vraiment un goût de gâteau d'antan. C'est délicieux, très, très délicat.
Avec la note anisée que vous aimez bien, je vous connais, Alessandra, j'adore. Vous adorez l'anis.
Bravo, bravo Thomas, parce que franchement, Pierre Lacan dit que Bourbonneux n'a jamais voulu donner sa recette de sirop.
Ben voilà.
Et là, franchement, Thomas, il a trouvé, en tout cas, il s'est approché de ce qu'on pense qu'était le grand flot.
Antoine Gerbel, vous trouvez ça trop sucré, je suis sûr.
Ah, il n'en a pas. Bon, ben on va servir Antoine Gerbel. Un immense merci. On termine sur cette douce note pour rendre hommage à Alexandre Dumas et cette recette que vous vous réjouissez de retrouver, hein, c'est ça ?
Ah, j'adore, j'adore.
La semaine prochaine, le sandwich dans tous ses états, à Paris et en région, avec un spécialiste de la street food, Irman Abdoulhakim, et Clara Vucher, qui est créatrice de magnifiques sandwichs à Toulouse. Il y aura aussi Alessandra Pierini.
Avec plaisir.
Qui viendra nous parler de tramezzini et autres panini. Absolument. Merci beaucoup Stéphane Solier pour vos lumières. Et à dimanche prochain, si vous avez encore faim. Après les infos, vous avez rendez-vous avec Questions politiques, animée par Karine Bécard. Bonjour Karine.
Bonjour François-Régis Gaudry. C'est Valérie Ayer, notre invitée ce midi, la tête de liste Renaissance aux élections européennes. Elle va parler d'Ukraine avec nous, on va parler de relocalisation industrielle aussi, et puis comment compte-t-elle rattraper son retard sur la liste RN. Voilà, vous avez le programme, je vous dis à tout de suite.